Odissea 14702 prima.
Avanti. Azione.
Les podcasts de la Cinémathèque. Bonjour, bienvenue à la Cinémathèque. La rétrospective Douglas Sirk va continuer jusqu'au 26 octobre, mais on tenait à cette séance pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un très beau film, mais aussi parce que c'est l'occasion de continuer à parler d'un livre qui paraît aux éditions de l'Œil, le livre de Bernard Eisenschitz qui s'appelle Douglas Sirk, né Detlef Sirk, et qui correspond à la rétrospective qui a eu lieu à la fois à Locarno, rétrospective des films de Douglas Sirk, et en ce moment à la Cinémathèque française. D'un mot, Bernard Eisenschitz est historien du cinéma. Il a consacré, disons, trois biographies à des cinéastes, l'une à Nicolas Ray, l'autre à Fritz Lang, et puis maintenant Douglas Sirk. Trois biographies qui ont en commun de raconter évidemment des vies de cinéastes, mais des vies de travail, des vies au travail, on pourrait presque dire des vies à l'œuvre. Donc chaque fois des biographies d'artistes engagés à faire des films et presque ne pensant qu'à ça. Dans le cas de Douglas Sirk, sa vie, en un mot, c'est une vie double, ou c'est une vie divisée entre l'Allemagne et les États-Unis, entre le théâtre et le cinéma, et puis entre une condition qui était celle de, on pourrait dire, de réalisateur employé d'un studio, en l'occurrence la Universal, et qui en même temps, après qu'il a cessé de faire des films, a été sacré grand maître du mélodrame. Alors, le temps d'aimer, le temps de mourir, on peut dire que c'est l'un de ses grands, rares, mais vrais mélodrames. Et en même temps, c'est un mélodrame et c'est un film de guerre. Donc, c'est un mélodrame dans un film de guerre. En un mot, c'est une histoire d'amour dans un décor de mort. C'est une love story sur laquelle passe ce que Douglas Sirk lui-même a appelé le souffle terrible des circonstances. De tout ça, on aura l'occasion de reparler avec Bernard Eisenschitz à la fin du film, puisque Bernard a choisi ce film, et avec lui, on reviendra évidemment sur les conditions de tournage d'un tel film, sur la mise en scène, évidemment, de Douglas Sirk qui éclate à l'écran, et puis aussi sur les résonances dramatiques, autobiographiques, secrètes de Douglas Sirk à l'égard de son œuvre, mais en particulier avec ce film-ci, tourné en Allemagne. Voilà, je ne vous en dis pas plus, sauf qu'effectivement, à la fin du film, donc on se retrouve pour une discussion avec Bernard et avec vous. Bonne projection et à tout à l'heure. Je pense que ça vaut la peine de donner quelques éclairages, grâce à toi Bernard, sur ce film en particulier. Peut-être dire, pour commencer, au moment où Douglas Sirk fait ce film, il a 60 ans. C'est son avant-dernier film hollywoodien, puisque le suivant et le dernier à Hollywood sera Mirage de la vie. On pourrait dire aussi que c'est un des 22 films qu'il réalise pour le studio Universal entre 1950 et 1958. Donc, on pourrait dire c'est un film de plus, mais aucun film de Sirk n'est, comme il disait lui-même lorsqu'il faisait du théâtre, qu'il avait toujours cherché à concilier les impératifs commerciaux et les exigences culturelles. Donc, il était vraiment soucieux de chaque film, mais on peut dire aussi que celui-ci est cher à son cœur, ou en tout cas qui lui importe beaucoup, ne serait-ce que parce qu'il est question de l'Allemagne. Et peut-être rappeler, ou pour celles et ceux qui ne savent pas, est-ce que dans une timeline un peu rapide, tu pourrais nous dire ou rappeler qui est Douglas Sirk et surtout d'où il vient?
Bon, alors Douglas Sirk, pour les nouveaux arrivés. Douglas Sirk, donc, est un Allemand du Nord, un Allemand de Hambourg, qui a été très tôt après la Première Guerre mondiale, un jeune metteur en scène de théâtre brillant, à succès, de ville en ville, à Chemnitz, à Brême, à Leipzig, chaque fois en progressant dans sa carrière, donc de 19 à 33, à l'arrivée des nazis, où sa carrière est devenue plus problématique parce qu'il avait une femme juive, parce qu'il était républicain, donc il n'était pas partisan du Troisième Reich. Il s'est tourné vers le cinéma qui lui offrait effectivement plus de liberté relative que le théâtre dans le jeune Troisième Reich. Au cinéma, il a fait 7 films en Allemagne qui ont été de grands succès commerciaux de plus en plus. Le dernier a été le plus grand succès de la UFA, du studio, et il a créé, dans ses 2 derniers films, il a créé une star internationale, Zara Leander. Il a émigré immédiatement après son deuxième film avec Zara Leander. Donc à la fin, 37, signe une bouteille à le millésime 37 dans le film. On peut penser que ce n'est pas tout à fait un hasard. Les chiffres ont une certaine importance pour Sirk. Enfin, les remarques lancées un peu comme ça au hasard ne sont pas toujours hasardeuses. De 37 à 39, donc il a vécu un exil difficile à travers l'Europe de l'Ouest. Il est arrivé aux États-Unis en 39. Il a commencé, alors là je galope, il a commencé à tourner. Il est revenu dans le cinéma, donc le cinéma hollywoodien cette fois, qu'en 1942. De 1942 à 1949, il a tourné des films dans des conditions parfois d'indépendance, parfois de studio, de producteurs trouvés pour un film ou pour un autre, etc. Il gardait l'idée. Alors, il avait émigré en demandant la nationalité américaine. Sa naturalisation, donc demandée dès 1938, est arrivée en 1944-1945. Et son idée était, malgré tout, de retourner travailler en Allemagne. C'est un cas un peu exceptionnel parmi les exilés, surtout aussitôt après la guerre. Après une année en Allemagne à essayer de monter un film, il est revenu aux États-Unis, où, après le film que vous verrez peut-être tout à l'heure, La Première Légion, qui était sa tentative d'indépendance, il a signé un contrat à long terme avec Universal, le studio qui a donc produit ses 21 derniers films. Universal était un petit studio où il dépendait beaucoup de son économie de temps et d'argent, et il dépendait des genres qui marchaient avec Universal. Il n'y avait pas beaucoup d'ambition dans ce studio. Petit à petit, il a posé ses conditions, petit à petit, de succès en succès, de films non choisis, qu'il arrivait un petit peu à réorganiser, à tirer à soi. Il est arrivé à gagner une certaine indépendance grâce à ses succès. Et dans ses derniers films, il arrive à réaliser des films qui n'appartiennent pas directement au genre du mélodrame. Donc, il y a une adaptation de Faulkner, il y a une biographie militaire et il y a cette adaptation du best-seller, du gros roman d'Erich Maria Remarque, dont on peut dire deux mots, puisqu'Erich Maria Remarque revient à l'Universal. L'un des plus grands succès, un des premiers et plus grands succès, un succès mondial de Remarque, a été « À l'Ouest, rien de nouveau », roman paru à la fin des années 20 et adapté en 1930 par Universal, et qui a été un énorme succès, non seulement un succès commercial, mais aussi un succès culturel, un succès international, en particulier en tant que film sur l'Allemagne en guerre, film assez parallèle de l'intrigue de celui-ci d'ailleurs, où alterne le front et l'arrière et la vie civile. Et ce film a eu un très grand succès également en Allemagne, où il était particulièrement admiré par Joseph Goebbels, qui écrit a posteriori, il a fait Universal en a tiré un film magnifique. Nous avons été obligés de le boycotter. Donc, il y a eu un boycott très violent des bagarres, des demandes d'interdiction, etc. D'Alouez Rien de Nouveau, qui a été un des premiers films interdits, évidemment, en Allemagne nazie. Donc, cela dit, Remarque était un qui avait émigré très tôt, lui, qui avait émigré, je crois, même avant 1933. Remarque était parti, continuait d'écrire des romans qui étaient en général des best-sellers, dont plusieurs ont été adaptés dans les années 30 et 40 à Hollywood. Beaucoup sont d'ailleurs des films assez intéressants. Et voilà, en 1954, il fait ce film sur. Il fait ce livre. Donc, il avait vécu la première guerre, il n'a pas vécu la deuxième guerre, mais il écrit ce livre en 1954. Qui est, alors là je ne connais pas exactement le processus, mais il est très probable que le livre est acheté par Universal et que Sirk se présente pour réaliser le film. Sirk insiste pour réaliser le film et obtient la chose étant donné la trajectoire ascendante de sa carrière. Sans avoir le détail, c'est assez facile de deviner ça et de déduire ça, en tout cas de l'idée de Sirk, d'une part, de faire ce film pour des raisons personnelles dont on parlera plus tard, et de faire ce film et de le faire en Allemagne, en tout cas de tourner les extérieurs et les studios en Allemagne, la finition est en fait à New York. Donc voilà, les raisons sont assez fortes pour Sirk. D'une part, ce film qui lui tient à cœur pour ses raisons privées, et d'autre part, cette possibilité de redécouvrir l'Allemagne dont il avait fait une expérience très malheureuse en 1949. Je crois que je suis arrivé au bout de la timeline. Là.
Chapeau. voilà, reprends ton souffle, mais pas longtemps, parce que juste un mot sur Remarque. Donc, c'est lui qui joue dans le film, le romancier lui-même joue le rôle du professeur Paul Mann. Donc, et c'est la seule fois où, à ma connaissance, Remarque apparaît dans un film de fiction. Donc, ça dit quand même la connivence ou l'amitié qui a existé entre les deux hommes. Et donc, ma question, c'est quelle a été la part de Remarque dans l'écriture du scénario, l'adaptation de son roman de 1954, et quelle liberté Sirk a pu prendre ou a prise par rapport au roman?
Alors, je n'ai pas lu le roman, hein, mais on peut dire un certain nombre de choses. Le scénario a été confié à un scénariste qui n'a pas beaucoup travaillé à Hollywood, dont le nom est au générique. Il semble, d'après les correspondances et d'après l'assistante de Paul Kohner, qui avait déjà travaillé avec Sirk, justement, sur la Première Légion, il semble que la dernière version du scénario ait été entièrement faite par Sirk et Remarque. Il est clair qu'ils se sont très bien entendus. Il y a des correspondances dans les archives de Sirk. Il y en a d'autres aussi dans les archives de Remarque, mais ça, Jean-Loup Bourget les a consultés, mais il n'a pas publié les résultats de ses recherches. J'espère qu'il le fera. Donc, amitié, invitation à venir. Il vit en Suisse, sur le lac Majeur, je pense, lui. Et c'est la visite en Suisse, la visite des époux Sirk en Suisse, chez Remarque, invité par Remarque, qui va les amener à choisir pour leur retour après la fin de la carrière cinéma Universal de Sirk. C'est ce qui va les amener à choisir la Suisse et un lac pour s'installer définitivement. Donc, collaboration étroite et amitié avec Remarque. S'il n'y avait pas amitié, je ne pense pas qu'il aurait accepté de jouer dans le film. Il y a dans le livre Conversation avec Douglas Sirk, il y a des récits assez humoristiques sur les rencontres avec Remarque, visiblement une grande amitié. Donc, ça, sur l'adaptation proprement dite, il y a évidemment la structure du film est assez proche de celle d'Alouez Rien de Nouveau. Ça, je pense que Remarque avait trouvé un système et comme ça fonctionnait bien, il n'avait pas de raison de s'en priver. Il y a des choses dont on sait que Sirk a parlé dans ses souvenirs. Rappelons qu'il a quand même vécu 4 ans en Allemagne nazie, donc de 1933 à 1937, sans arrêter d'y travailler et en voyant dès 1932 les gens autour de lui changeaient, les acteurs de sa troupe de théâtre arrivaient en portant l'insigne du parti au revers de la veste. L'antisémitisme se déclarait beaucoup plus ouvertement par rapport à la présence de sa femme. L'hostilité aussi bien policière que personnelle dans la ville où il était, qui était Leipzig à l'époque. Donc cette atmosphère de non seulement le pouvoir, mais l'esprit nazi s'infiltrant partout, s'établissant partout. Et je pense que c'est très important pour le film et c'est probablement quelque chose qui, c'est probablement dans le roman, mais en tout cas, c'est un angle sur lequel, c'est un point sur lequel Sirk a beaucoup insisté dans le film, cette idée que ces nazis sont des gens qu'on a connus au lycée, qui sont très très gentils et qu'il y a des choses au-delà desquelles on ne va pas. S'ils sont bienveillants, ils vous préviennent qu'il est temps de s'arrêter. S'ils ne sont pas bienveillants, il faut prendre ces précautions. Ces notations sur la vie en Allemagne nazie, sur la vie privée en Allemagne nazie, aussi sur la militarisation de la vie, enfin sur le contrôle installé de manière générale sur les locations, les locataires, etc. Ce sont des choses qui, à mon avis, dont en tout cas, si ce n'est la lettre, en tout cas l'esprit et l'accent cinématographique, l'accent des scènes aussi, le choix des comédiens, jouent un grand rôle de la part de Douglas Sirk. De ce côté-là, il n'y a aucun doute qu'il y a d'une part une entente avec Remarque, d'autre part, il y a ce souvenir personnel de Sirk qui n'est pas celui de Remarque. Je pense une autre chose, c'est qu'il est clair que si l'auteur du roman joue un rôle dans le film, c'est pour donner sa morale, ce que le professeur Paulmann fait à un moment, qu'est-ce qui nous reste, c'est Dieu, et où serait, s'il n'y avait pas le doute, à quoi bon la foi, qui est quelque chose, alors Sirk a beaucoup parlé de la question de la foi, comme vous pouvez le voir dans la Première Légion, si vous avez le courage de rester, mais vous ne le regretterez pas. Il a beaucoup parlé de la foi, mais pas sous cette forme-là, et ce qui me paraît tout à fait remarquable, c'est qu'on a deux morales tirées dans le film. Le film ne se termine pas sur une morale. Sirk détestait ça. Dès le théâtre, il a dit qu'il ne voulait absolument pas avoir le discours final où on dit ce qu'il faut faire, comment il faut vivre, ce qui s'est passé. Voilà, on vous explique tout. Il insiste beaucoup là-dessus dans ses pièces, dans ses premières interviews au théâtre, très très tôt, en arrivant à Leipzig, en 29, et dans la correspondance, dans la lettre à son assistant metteur en scène allemand. Alors là aussi, il choisit un assistant metteur en scène qui est au top de la profession et qui est le fils d'un réalisateur catholique qui a fait quelques films anti-nazis à la fin de la guerre, sans talent d'ailleurs, mais d'une honnêteté qui tranche avec le tout venant de la production d'Allemagne de l'Ouest dans les 10 ans de l'après-guerre. Donc Michael Braun, qui ensuite est devenu réalisateur, est un homme de confiance. Et il lui écrit, je pense qu'il écrit à New York, avec Remarque, en lui expliquant qu'il continue de travailler sur le scénario, et en lui disant, bien sûr, j'enlève tous les éléments de propagande, ce qui est assez ironique, parce que Remarque n'était pas forcément un farouche propagandiste, sinon contre le nazisme. Donc, il y a la conclusion de Remarque est donnée, donc, mais avant la fin du film, et quelques scènes plus tard, c'est un petit peu curieux si vous pensez à la construction dramatique, après ce dernier discours de Paulmann, vous avez Joseph, donc le hors-la-loi qui est abrité par Paulmann, qui lui tire une autre leçon de la chose et qui explique qu'il est un homme en fuite, il est un juif, et il est un homme en fuite, il est un marginal, et il dit toutes les manières dont on peut s'en sortir. Voilà, vous, si vous êtes tout seul, vous aurez ça, si vous n'êtes pas tout seul, ça va être impossible, vous pouvez aller à tel endroit, enfin, qui prend la chose sur un plan à la fois pratique et sur une moralité de hors-la-loi. Voilà. Je pense que c'est quelque chose de très important, juste parce que je termine, parce que je l'ai dit avant-hier, mais je le redis quand même, c'est très important. Je pense que les personnages, ces personnages de hors-la-loi, de marginaux, de hors-la-loi volontaire ou involontaire, de marginaux, sous toutes leurs formes, que ce soit des femmes dans les mélodrames, des femmes qui sont opprimées d'une certaine manière, mais minorées par avance par la société, ou des hommes ou des femmes qui n'ont pas choisi leur race, qui choisissent, comme dans le dernier film, dans Mirage de la vie, une noire ou une fille d'un père blanc et d'une mère noire, qui choisit d'être blanche et de renier complètement son existence de noire, ou que ça soit dans Tout ce que le ciel permet, le personnage de Rock Hudson qui refuse très tranquillement la société de la petite ville et qui va vivre près de la nature. Ces personnages de marginaux sont très importants chez Sirk. Et quand, il a beaucoup parlé des personnages clivés, indécis, etc. Mais il n'a pas tellement parlé de ça, mais je pense que c'est une permanence chez lui, sans jamais de répétition d'ailleurs, sans jamais de doublon entre les films, mais que c'est quelque chose de très important. Et je pense que plus je vois le film, plus je pense que le personnage de Joseph, joué par ailleurs par un très bon acteur, Charles Régnier, aux ancêtres français, est un personnage, Charles Régnier, un acteur que vous voyez dans tout le cinéma allemand de l'Ouest des années 50 et peut-être aussi 60. Je pense que c'est un personnage ou un moment clé du film aussi. Pardon.
Peut-être aussi une dernière chose concernant Remarque et Sirk, c'est que Sirk a touché au titre pour le coup. Ça, le roman de Remarque s'appelle Un temps pour vivre, un temps pour mourir. Oui. Et Sirk en a fait Un temps pour aimer, un temps pour mourir.
Alors on ne sait pas très bien si c'est Sirk ou le studio, toujours est-il qu'il était très content du changement.
Il était très content du changement et il avait une passion pour les titres.
Oui, c'est ça.
Il n'obtenait pas toujours gain de cause de la part du studio.
Oui,
mais d'ailleurs, en revoyant Mirage de la vie, c'est-à-dire qu'il a fait un film avec Barbara Stanwyck au début des années 50, il s'appelle All I Desire. Il aimait pas du tout ce titre parce qu'il voulait l'appeler Stopover. Ouais. Et puis le studio l'a pas laissé. Et il a glissé ce titre 6 ans après dans Le Mirage de la vie, puisqu'à un moment, dans les pièces que l'actrice joue, tout d'un coup, il y en a une qui s'appelle Stopover. Donc enfin, il avait vraiment une passion pour... Il disait, le titre d'un film doit être une enseigne. C'est comme un signal, ça donne une indication. Ça raconte pas, ça dévoile pas, mais évidemment, ça intrigue. Mais ça met sur la piste, en quelque sorte. Ça, c'est très beau. Et puis, tu disais...
Le temps de vivre devient... En français, le roman était sorti sous le titre L'île d'espérance. Maintenant, on le trouve sous le titre Le temps d'aimer, le temps de vivre.
Traduction de Michel Tournier, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, la traduction est titre possiblement aussi de Michel Tournier. Bon, donc le studio a hésité. C'est pas vraiment un film de guerre. Il faut pas le vendre uniquement comme un film de guerre, vivre et mourir, etc. Donc, aimer. Alors, je ne sais pas qui a décidé ou qui a proposé. Toujours est-il que ça comblait le désir non formulé de Sirk, et puis donc ça laissait libre le temps de vivre qui m'a servi pour mon dernier chapitre.
Absolument, tu l'as appelé comme ça, oui.
Mais voilà, donc il faut dire aussi que c'est un film hors parcours de Sirk qui a travaillé dans ces dernières années avec essentiellement avec deux producteurs et avec un et deux compositeurs assez médiocres tous les deux, il faut le dire. Frank Skinner et Joseph Gershenson, qui était le directeur du département musique. Et dans ce film, il a un autre producteur, inconnu d'ailleurs, enfin inconnu de nous, pas quelqu'un qui a travaillé beaucoup, donc quelqu'un qui était peut-être amené avec le package, par un agent avec le package des droits du roman, ça j'en sais rien. Mais donc toujours est-il que Sirk dit beaucoup de mal de ce producteur, mais qu'il a énormément travaillé, en particulier au doublage. Et en revanche, il a un des bons compositeurs de Hollywood, qui est Miklos Rosa, dont on reconnaît les cartes mineures descendantes et les accords surprises dans un tournant de l'action. Enfin bon, donc au moins c'est une partition, c'est pas une des grandes partitions de Miklos Rosa, mais au moins c'est une partition composée par un musicien, ce qui fait une certaine différence. Les autres, dans les mélodrames, les bons moments, c'est quand il leur dit d'utiliser un peu de Liszt, un peu de Brahms. Alors là, ça peut aller. Mais pour le cancer...
c'est vrai. Tu as évoqué la femme de Douglas Sirk, la seconde femme qui s'appelle Hilde Jarry, et qui est donc Hilde Sirk, et qui a vécu avec lui à partir, je crois qu'ils se sont mariés à la toute fin des années 20. Et tu dis toi-même que dans ce film de guerre, ce film qui se passe pendant la guerre, guerre que Sirk a vécu lui depuis les États-Unis, mais tu dis qu'il y a injecté sans doute, au moins dans l'esprit, beaucoup de ses souvenirs des années 30. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, c'est peut-être une vision secrète, romantique, romancée, imaginaire de ce qu'a été leur histoire d'amour à elle et à lui dans l'Allemagne des années 30? Parce qu'une des caractéristiques du film qu'on vient de voir, c'est ce qui le rend en particulier émouvant, c'est que le couple d'amoureux passe son temps à chercher un endroit. Et eux, certes, avaient une maison, mais ils étaient en quelque sorte sous une certaine menace.
Il y a eu l'histoire d'aller de maison en maison qui a été vécue, en effet, mais plus tard par Sirk et Hilde, à partir de 1933, quand a commencé le processus qui était appliqué à tous les artistes ou les intellectuels, les gens du monde de la culture plus ou moins en vue, qui était de leur faire quitter leur épouse juive. C'était un processus systématique qui a joué, qui n'épargnait personne. Donc Sirk, qui faisait un peu carrière pour protéger sa femme, voyant qu'à Leipzig, ça n'était plus possible, se rapprochait, d'une part, acceptait les propositions officielles. Donc, il a mis en scène dans un des premiers grands festivals de théâtre en plein air, patronné par Goebbels directement. Il a monté deux pièces à Heidelberg et il a emmené sa femme, mais ils ont logé hors de la ville et il a été prévenu un matin qu'elle risquait d'être arrêtée. Donc, elle a été arrêtée plusieurs fois. Interrogés, effrayés, et ils ont à un moment après cet épisode, donc qui était au moment de la nuit des longs couteaux, donc c'est 35 je crois, à partir de là ils ont été soumis à de plus en plus de pression de la part du studio et de la part d'éléments plus haut placés que le studio de cinéma pour qu'ils divorcent de sa femme, avec toutes les garanties pour le rassurer, disant qu'elle peut s'installer à l'étranger, etc. Ce qu'il a refusé de faire, ce que les plus grandes vedettes du cinéma allemand ont été contraintes de faire, alors les deux vedettes, pardon de le répéter, si vous l'avez déjà entendu, les deux plus grandes vedettes du cinéma allemand ont été contraintes de divorcer de leur femme juive, c'était la vedette de film d'action, Hans Albers, et la vedette de comédie, Heinz Rühmann. Donc ça remontait jusqu'au sommet. Donc Sirk, qui pensait protéger sa femme en ayant du succès, a découvert finalement, donc en 37 années charnières, a découvert finalement que sa notoriété même l'ouvrait à la menace, que c'était beaucoup plus dangereux pour lui d'avoir une femme juive en étant célèbre, beaucoup plus dangereux pour elle d'ailleurs, d'avoir une femme juive en étant célèbre que s'il avait été obscur comme un petit acteur de sa troupe, comme certains qui ont pu tenir jusqu'au début des années 40. Malheureusement, pas davantage, mais enfin, il y a eu beaucoup de cas aussi de couples, soit séparés, voire pire encore. De ce côté-là, il y a effectivement un souvenir. Bon, le souvenir le plus direct qui apparaît dans le film en filigrane, qui est suggéré, qui est réel, dont il ne faut pas faire trop, il ne faut pas voir le film comme un film autobiographique, mais l'épisode qui a été d'ailleurs l'objet d'un livre il y a quelques années, c'est donc Sirk qui avait épousé une femme en 24, dont il a eu un fils en 25. Ils ont divorcé en 2 ans plus tard. Il a épousé donc sa deuxième femme, Hilde Jarry, qui était, non, je pensais que tu comparais Hilde Jarry à Lieslotte Pulver, non, qui était déjà une actrice, qui était déjà divorcée, qui était très jeune, mais qui avait déjà eu un premier mariage, un divorce, une carrière éclair au théâtre. Donc, ce n'est pas du tout la situation de Lise Lottepoulver. Toujours est-il que le divorce a été prononcé aux dépens de Sirk, qui a eu une interdiction de voir son fils. Interdiction qui a été renforcée à partir de 1933, dans la mesure où sa première femme l'a dénoncé comme mariée à une femme juive et est arrivée à obtenir une interdiction totale de le voir. Alors, avec un épisode qui a été raconté plusieurs fois par sa femme, mais enfin bon, qui était... son fils est devenu acteur et acteur enfant du cinéma. Donc, l'épisode raconté, c'est que le fils travaille sur un plateau, Sirk travaille sur un autre plateau, il veut passer d'un plateau à l'autre pour saluer son fils, et des gardes sont là qui l'empêchent de parvenir à d'entrer sur le plateau et qui lui interdisent de voir son fils. Donc, épisode peut-être un peu, peut-être romancé, peut-être pas, peut-être exact, tout est possible, j'en sais rien. Toujours est-il que le Klaus Detlef, pas Hans Detlef étant le père, Hans Detlef devenu Detlef, le fils Klaus Detlef devient un acteur de cinéma, un acteur enfant de cinéma, et arrivé à 14-15 ans, il joue le fils du roi dans Le Grand Roi de Weiterland, donc super production, sur Frédéric II, sur le grand Frédéric, le héros national allemand qui avait été l'objet de 7 ou 8 films, toujours avec le même acteur. Donc il joue le fils maladif qui meurt dans ce film-là, le grand roi. Goebbels déteste le film, oblige Harlan à refaire le film et surtout, semble-t-il, oblige Harlan à éliminer le plus possible le Klaus Detlef Sirk, qui tourne ensuite, tout de suite après, qui tourne 15 ans, 16 ans, 25, non, oui, 25, 41, 42, qui tourne tout de suite après un film de propagande nazi dans lequel il joue un jeune SS, Kopf hoch, Johannes. Là, je m'empresse de dire que je ne l'ai pas vu non plus, mais qu'il faudra peut-être... Et qui tout de suite après est envoyé sur le front russe. Donc, c'est un film de propagande, donc film tout à fait officiel. Pourquoi est-il envoyé sur le front russe? Pourquoi un garçon qui n'a pas 20 ans est-il envoyé sur le front russe? Ça veut dire qu'on l'envoie se faire tuer. C'est tout à fait net. Il n'y a aucun doute sur le but de ce côté-là, s'il avait été envoyé à Paris ou dans une autre des capitales occupées ou n'importe quel autre pays, autre chose. Envoyer quelqu'un sur le front russe, ça équivalait à une condamnation à mort sans procès, non prononcé. Et effectivement, il fait partie d'un des bataillons les plus prestigieux et évidemment qui subissent le plus grand nombre de pertes. Et il est tué au début 1944. Voilà, donc vous voyez immédiatement l'écho avec le film, avec ce twist du film avec le personnage. Et il y a même une scène, alors l'auteur du livre, Denis Rossano, a même repéré une scène dans laquelle on voit au moment où Lise Lottepoulver attend le départ du train, où il monte dans le train, on voit deux bonnes sœurs. Une des bonnes sœurs est Hilde Jari, Hilde Sirk, qui n'a plus jamais joué depuis 1933 et qui n'a jamais eu un rôle aux États-Unis. Et donc, cette bonne sœur est une figurante qui est la femme de Sirk, sa seule apparition à l'écran depuis toute la fin de sa vie. Et à côté d'elle, on voit passer un très jeune homme en uniforme qui va s'asseoir de l'autre côté et un autre très jeune homme qui s'assied à côté d'elle. Bon, Denis Rossano y voit évidemment une image dans le tapis du fils Sirk, une espèce de dédicace secrète du film à son enfant disparu, même si c'est un petit peu excessif, même s'il est un peu abusif aussi de dire que le film est autobiographique ou est une autobiographie déguisée, etc. L'écho est évidemment là et est évidemment tout à fait conscient.
D'autant que Quand le fils meurt sur le front russe en 1944, Douglas Sirk n'a pas tout de suite la certitude de la disparition de son fils.
Alors, il n'a aucune nouvelle, il ne sait rien. Et je pense que quand il vient en 49, c'est aussi une des raisons de son voyage.
En Allemagne.
Quand il vient passer un an en Allemagne à essayer de monter une comédie musicale, il fait des recherches là-dessus et il reçoit donc les nouvelles tout à fait officielles, c'est-à-dire le communiqué officiel et quelques livrets programmes des derniers films dans lesquels il a joué, en tout cas du dernier film, Kopf hoch Johannes, Lève la tête Johannes. Donc Johannes est un garçon qui porte le drapeau à croix gammée. Il y a dans sa correspondance pas mal de lettres à des gens qui l'ont écrit, qui lui écrivent, qui lui disent « j'ai travaillé avec votre fils », etc. On n'a pas la teneur des réponses, on n'a ni la teneur des renseignements, puisque Sörke, dans ces cas-là, a essayé d'insister pour voir les gens qui lui disaient ça et se faire parler de son fils. Dorothea Wieck, qui joue le crocodile dans le film, a joué avec lui dans, je crois que c'était dans le dernier, dans Kopf hoch Johannes. Plusieurs des actrices des mélodrames de Sörke, des mélodrames allemands, la 9e symphonie, Lille Dagover, a joué avec lui. Et quand il est revenu dans l'équipe du temps d'aimer, le temps de mourir, il y a, je pense aussi, quelques petits acteurs qui ont dû le connaître. Donc il a dû essayer d'en savoir plus. Ça n'a laissé aucune trace écrite, en tout cas, malgré le fait qu'il y ait eu des tentatives d'écriture. Il a passé toute sa retraite à écrire et sa femme a écrit un roman à clé, inachevé. C'est le roman qui donne le plus de renseignements sur l'état de la vie sous le nazisme, etc. Cette histoire des SA interdisant l'entrée du studio qui a été racontée aussi ailleurs, mais en tout cas, c'est elle qui l'a écrit et je ne suis pas sûr que je pense plutôt le lire comme un roman que comme un compte-rendu fidèle. Il faut faire attention. Lui-même a écrit plutôt quelques nouvelles. Il s'intéressait plutôt à écrire des tragédies inspiré des Grecs, mais il a écrit quelques nouvelles sur cette période. Il y a un recueil d'une dizaine de nouvelles qui serait peut-être intéressant d'ailleurs de traduire un jour, qui sont des situations de vie sous le Troisième Reich, d'exclusion, soit exclusion par le racisme, d'exclusion par le changement du mode de vie. Voilà.
Mais effectivement, Sörke a dit que ce qu'il avait vécu en Allemagne, on peut l'entendre, avait fait de lui un pessimiste, et qu'en particulier, toi qui insistes beaucoup sur les personnages clivés ou les personnages qui se retournent, il dit que c'est vraiment dans cette période-là qu'il a vu des gens de son entourage virer littéralement ou se transformer ou devenir autre. Et que ça l'a beaucoup marqué.
Visiblement,
c'est
ça. Golling était un acteur qui a viré, exactement. Non, Golling, c'est un acteur de sa troupe qui, justement, a joué dans la pièce, qui a été interdite par les SA et qui a complètement viré Nazi en quelques mois. Et c'est, mais en effet, bon, je pensais au... Comment s'appelle son copain de classe qui,
le fils du laitier.
Le fils du laitier, par exemple. Voilà, précisément, je pense que là, il y a une image assez fidèle de la manière dont les choses se sont passées. Il y a aussi un souvenir d'aide, non pas par des marginaux, mais d'aide qui lui ont été apportées. Il a témoigné pour deux personnes, en tout cas, aussi bien les chercheurs qui ont travaillé sur les archives du parti nazi ou sur les archives d'État, etc., que les archives Sörke que j'ai fouillées, ne laissent des traces que de deux témoignages favorables qu'il a fait pour des gens qui sont restés sous le Troisième Reich. Alors curieusement, l'un des deux est le premier qu'ils ont vu lors de leur fuite, qui habitait en Bavière, et qui a signé les derniers scénarios qu'il a écrits, qui ont été tournés après son départ. Et c'est lui qui les a signés. Donc c'était un écrivain... assez médiocre, un écrivain comme ça, qui travaillait un peu un tâcheron, mais qui avait une certaine réputation de professionnel, en tout cas de scénariste ou d'écrivain. Il a fait un témoignage pour lui. Il a fait un témoignage en sa faveur. Alors, beaucoup plus curieusement, il a fait un témoignage en la faveur d'un des deux écrivains qui ont fait les deux critiques dans l'organe officiel nazi, le quotidien officiel nazi, le Völkischer Beobachter. Il y a eu deux critiques du Lac d'Argent, donc la pièce qui a créé le scandale à Leipzig, la pièce que personne d'autre n'osait monter dans toute l'Allemagne, qu'il a montée, donc, dont la première a eu lieu 15 jours avant l'incendie du Reichstag. Donc la carrière n'a pas été très longue. Et les deux critiques qui parlent de la décadence, qui menacent Sörk et le chef d'orchestre de subir les conséquences de leurs mauvaises actions, etc. Le chef d'orchestre en particulier n'a pas été aux festivités du centenaire de Wagner et c'est très très mal pris. Donc ces deux auteurs déjà nazis qui ont fait carrière depuis, bizarrement, Sörk a fait un témoignage pour l'un des deux, dont j'ai le bon, 10 ans, disant qu'il n'était pas convaincu, qu'il a agi par pur... non, il ne parle même pas d'opportunisme, ce qui aurait quand même été à charge. Il dit qu'il a été obligé d'agir ainsi. Enfin,
bon, ouais. Il le dédouane.
Il le dédouane en quelque sorte. C'est assez bon. Alors c'est
juste pour curieux. Juste pour finir sur, enfin finir ou en tout cas la question du fils. On est quand même en droit d'imaginer, même si c'est tiré d'un roman, même si cette histoire n'est pas la sienne, puisqu'elle est racontée par, elle est inventée par le romancier, par Remarque, on a dit ou on peut imaginer qu'effectivement, Sörk s'est à ce point passionné pour ce film que parce que c'était la possibilité pour lui d'imaginer ce qu'avaient été les dernières semaines de son fils.
Oui, précisément. Oui, oui,
que c'est d'une certaine manière, dans cette fiction, il a pu projeter tout ce qu'il a cherché et qui lui a manqué.
Par ailleurs, le film est très, très intéressant sur sa manière de montrer sans jamais, bon, d'une part, sans, il n'y a pratiquement pas de traces des insignes nazis, il n'y a pas un seul Heil Hitler, le Führer lui-même n'est pas mentionné une fois.
Pas sous le nom de Hitler.
Oui, c'est ça. On parle du pouvoir, évidemment. On parle de la Gestapo, mais on ne parle pas beaucoup du reste. Et puis, ce qui vous a peut-être frappé, enfin, ce qui peut quand même beaucoup frapper, c'est que l'acteur principal et la chambrée à l'hôpital militaire qu'on voit n'est pas très, très allemande. Il y a Keenan Wynn, qui est quand même un des acteurs de... Celui qui a la goutte, qui est quand même un des acteurs de comédie les plus connus des États-Unis dans ces années. Il est dans toutes les comédies musicales. Même son père était un comique. Son père est un comique dans Cinderella de Jerry Lewis. Donc c'est une dynastie de la scène américaine. Et on ne fait pas plus américain que Keenan Wynn. John Gavin n'est pas très viking, comme dirait notre ami Jean-François. John Gavin était d'origine moitié mexicaine, donc il n'a pas vraiment le caractère héroïque allemand. Donc il n'y a rien en dehors des accents, il n'y a pas de caractéristiques culturelles allemandes dans le dialogue. Certains acteurs sont doublés. Alors là, Sörk, qui faisait attention aux différences de langue, cette fois renonce. C'est l'anglais parlé d'un bout à l'autre, avec les acteurs qui parlaient le mieux l'anglais parlant avec un léger accent, comme Lieslotte Pulver. Énormément de doublage. Il y a une lettre à Lieslotte Pulver où il parle du doublage qu'ils ont fait à New York. Et il lui dit que qu'il a pratiquement dû doubler réplique par réplique une grande partie des acteurs. Mais ça reste quelque chose qui est parlé américain. Et ça, donc, il y a quelque chose de cette chose qui frappe Sörk, c'est si vous étiez à leur place. Ce sont des Allemands, certes, mais où êtes-vous ? Bon, le film n'a pas été fait au moment de la guerre du Vietnam, sinon il est certain qu'il y aurait eu des réactions de comparaison sur quels sont ces gens qui sont innocents et qu'on apprend à briser toute la morale qu'ils ont apprise Et c'est aussi un sujet, un sous-sujet dans un autre film pas très bon qui s'appelle Les ailes de l'espérance, mais où là, comme c'est une biographie militaire, le héros surmonte ses scrupules, alors que là, il y a quand même un jeune homme qui décide de se suicider quand il voit qu'il ne peut pas renoncer, qui est un geste tout de même exceptionnel dans une armée, dans un film militaire.
Mais ce que tu dis me semble une des deux caractéristiques un peu audacieuses du film. C'est-à-dire que la première, c'est que quand même le personnage principal, même s'il parle américain, et le héros est un Allemand de l'armée d'Hitler, de l'armée d'Allemagne. Donc pour un public américain, ça ne va pas de soi. D'emblée, ce choix-là.
Il y a eu deux, trois films comme ça. À l'époque, il y a eu deux, trois, peut-être quatre films, certains qui ont lancé la carrière de Kurt Jürgens en patron de sous-marin, en capitaine de sous-marin. Et puis, il y en a un qui est. C'est pas Kurt Jürgens, là, c'est carrément Marlon Brando dans Le bal des maudits d'Edward Mitrick, par exemple. Donc il y a eu un moment. Ou alors, je ne sais pas si c'est pour des raisons politiques ou pour des raisons de marché, on a commencé à dire, les Allemands, mais il y en avait aussi des bons. Or là, c'est pas la question n'est pas, il y a des bons officiers, il y a des mauvais, etc. Disons. C'est vraiment pas la question.
L'autre aspect étonnant, c'est que dans ce film-là, il n'y a pas de happy end. C'est-à-dire que sans doute qu'il n'est pas possible du fait du roman, mais presque par contrat universal, Douglas Sirk se devait, quelle que soit l'intrigue, quel que soit le genre, se devait de respecter ou de ménager un happy end. Là, il n'y en a vraiment aucune trace.
Oui, d'une part, c'est un roman. D'autre part, c'est à l'Ouest, rien de nouveau. C'est exactement la même chose. Au tout dernier moment, le personnage est tué par une balle, quasiment par une balle perdue en cherchant à cueillir une fleur. Donc ça va avec c'est l'obligation quand même de l'adaptation d'un best-seller. D'autre part, je ne pense pas, il y avait malgré tout des règles dans la mesure où le personnage principal d'un film, enfin la règle du le code, même si le code allait vers une certaine déliquescence, le code exigeait que quelqu'un qui tue ne peut pas s'en sortir.
Oui, il tue au début, enfin le peloton
donc,
d'exécution.
Il tue avec le peloton, il tue des donc il et il en parle, il en parle même, il le mentionne. Donc c'est pas voilà. Donc ça, de ce côté-là, je pense qu'avec ce film-là, ça convenait tout à fait. Encore une fois, c'était pas un film normal pour Universal. C'était pas un film de genre. C'était ni un western, ni une comédie, ni un mélodrame, qui étaient les trois genres Universal.
Et ce film-là, donc Douglas Sirk le monte en Allemagne. C'est-à-dire qu'il fait un premier montage. J'ai lu qu'il avait établi une première version de 2h40.
C'est ça, il parle d'un film de 2h38.
Celui-ci fait 2h15. Hein.
Oui, c'est ça, en disant qu'à son avis, c'était trop long. Et puis, les choses se passent mal avec le producteur. Donc, j'oublie le nom, mais qui est un producteur.
Robert Arthur.
Peut-être, oui. Enfin, oui, c'est ça.
Décrit comme un impossible philistin.
Voilà, c'est ça. Donc, les choses se passent mal avec lui. Et ayant établi la structure du montage, et sachant que cette structure ne sera pas entamée, ne sera pas démolie, parce que c'est difficile de la démolir, il quitte le montage. Bon, je pense qu'il ne doit pas y avoir eu beaucoup de changements entre 2h38 et 2h12 ou 2h15. On peut supposer que c'est son film. Enfin,
en tout cas, il l'a reconnu, enfin, il a retrouvé sa structure et son architecture.
Il est assez intéressant que le film n'ait pas... Là aussi, il y a des choses où je pense que c'est tout de même un travail où il a dû revenir sur le... Il n'y a pas la surabondance de musique qu'il y a dans ses autres films, dans les mélodrames, quand il avait Ross Hunter en particulier comme producteur, quand vous verrez Mirage de la vie. L'abondance, la surabondance de musique est une surabondance. Voilà.
Bon, peut-être une ou deux dernières questions. Une importante, peut-être, c'est pas son premier film en cinémascope, mais c'est le cinémascope.
Capitaine Mystère, le premier.
C'est Capitaine Mystère, le premier. Mais en tout cas, c'est un film en cinémascope et ô combien. Mais peut-être ma question, c'est ça, c'est Tu as décrit au début l'importance, et quand on voit le nombre de pièces que Douglas Sirk a montées ou supervisées, non seulement ça traduit une culture classique et même moderne absolument gigantesque, mais aussi un grand sens de la mise en scène théâtrale, mais il avait en même temps très nettement conscience que le théâtre et cinéma ne devaient pas être confondus et qu'ils ne pouvaient pas appliquer les mêmes recettes. Mais quand même, si tu devais dire ce qui, finalement, de son art théâtral, perdure dans sa pratique cinématographique, qu'est-ce qui aura traversé, en quelque sorte, l'art de Sirk, c'est-à-dire son travail scénique, est-ce qu'on en retrouve trace dans un film comme celui-ci ?
Alors oui, ben là je vais me répéter un petit peu, mais je pense que à la différence de beaucoup de cinéastes américains, y compris les plus grands, que Sirk pensait que le travail du metteur en scène était le travail principal. Donc beaucoup des cinéastes que nous admirons le plus, hein, ont toujours dit avec une grande modestie et sans vraiment mentir que ce qui comptait pour eux, la première chose qui comptait pour eux, c'était un bon scénario. C'était ça l'essentiel. À partir de là, le film se faisait ou capotait. Sirk n'a jamais dit ça. Il a toujours dit qu'il travaillait au scénario. Il tenait à réécrire plus qu'à écrire, comme il l'avait fait d'ailleurs au théâtre en réécrivant, adaptant les pièces. Mais il a toujours pensé que, alors, d'où ces cinéastes tentant soit d'obtenir leur liberté en devenant leur propre producteur, disons style Preminger par exemple, qui vient lui aussi du théâtre, ou bien essayant d'obtenir leur liberté par ces moyens-là, préalables au film, et finalement faire leur film avec le génie que nous savons, etc. Mais dans des situations où même ils pouvaient par moments abandonner le contrôle de certains aspects, par exemple dont Fritz Lang dans deux de ses plus beaux films, qui sont les derniers films américains, abandonnant l'aspect plastique du film. Chez Sirk, c'est l'inverse, c'est l'idée que le film est une... que le film, c'est la mise en scène, et que la mise en scène, ce n'est pas évidemment la mise en scène qui consiste à mettre en place les acteurs et les diriger, mais la mise en scène, c'est la totalité de l'œuvre représentée, c'est la totalité du spectacle, allant depuis la mise au point du texte, une mise au point qui vise déjà la fin, jusqu'au montage qu'il a commencé à apprendre. C'est très intéressant, les films allemands, on voit vraiment de film en film les découvertes qu'il fait, même sans vouloir analyser. Simplement en regardant les films, en essayant de les regarder dans l'ordre chronologique ou de se faire une idée chronologique, on voit de film en film ce qu'il découvre. Alors il arrive avec des acteurs qui jouent la comédie et il sait faire fonctionner ça. Et puis après, il va découvrir petit à petit la caméra, la construction, l'espace-temps, etc., etc. Le jeu de la musique et ainsi de suite. C'est la même chose. Donc dans ces films, c'est ça. Il travaille, et dans ce film, c'est ça, il y a un travail qui est un travail sur le scénario. Ça, on a un peu parlé. Il y a un carcan qui est un carcan positif, qui est le roman. Il y a un travail de réécriture radicale qui est le scénario. Il y a une préparation sur un film lourd comme celui-là. Aucune improvisation n'est possible, comme sur les petites comédies, bien sûr. Un travail extrêmement précis de choix. Alors, le choix des acteurs chez Sirk, on pourrait en parler, mais ça, on n'a absolument pas le temps. Mais un choix extrêmement précis. Alors, c'est intéressant parce qu'il utilise peu d'acteurs américains, en fin de compte. Il utilise un GI qui fait son service militaire en Allemagne, qui s'appelle Dana Hutton, qui joue le jeune soldat qui se suicide. Et Dana Hutton, qui s'appelle sous le nom de Jim Hutton, lui envoie une lettre. Il retourne à l'armée, il lui envoie une lettre bouleversante de reconnaissance, et il est devenu une vedette pendant quelques années du cinéma américain, surtout des comédies, des films légers, un petit peu oubliés aujourd'hui. Mais Jim Hutton était vraiment une vraie vedette du cinéma américain, ayant démarré par hasard grâce à Sirk. Donc il choisit certains acteurs qu'il connaissait du théâtre, Dorothée Havik, donc le crocodile, Kurt Meisel, l'homme qui joue avec les allumettes, qui a été la dernière personne avec qui il a travaillé au théâtre en revenant en Allemagne, où il a mis en scène six pièces. C'est Kurt Meisel qui dirigeait le théâtre et qui jouait les rôles principaux, d'ailleurs assez critiqué pour ses outrances. Bon, Kurt Meisel, donc là, il n'y a pas de, liste noire dans l'après, dans l'après Troisième Reich. Kurt Meisel a été dans des films nazis. Il a été pas mal compromis, je pense. Je ne suis pas sûr qu'il était membre du parti. Donc, il est possible qu'il ait été blanchi très vite après la guerre. Mais enfin, il était quand même assez... Ce n'était pas un personnage totalement innocent au théâtre ni au cinéma. Bon, vous avez reconnu évidemment Klaus Kinski dans un des premiers de ses centaines de rôles. Donc là aussi, il y a un choix chez les comédiens, parmi les comédiens allemands. Et puis, il y a cette affaire étrange. Alors, bizarrement, le nazi dans les soldats semble être un Suédois. Il ressemble très fort à un acteur de second plan.
Celui qui meurt à la fin.
Celui qui tue à la fin est un acteur suédois. Je n'ai pas trouvé trace de cet acteur. Il ressemble beaucoup à un acteur du cinéma américain qui s'appelle Charles McGraw, que vous allez voir dans un film présenté par Philippe Garnier, si je ne me trompe. Et bon, je ne sais pas pourquoi il est là. Et les autres, il y a un mélange. Donc, il y a Dieter Borsche qui joue le capitaine désabusé, etc. Donc, sur les choix d'acteurs, quelque chose joue sur les choix d'acteurs. C'est déjà ça, le début de la direction d'acteurs, c'est ça. Et puis ensuite, la décision, ce n'est pas la première fois après-guerre qu'il veut travailler avec une comédienne de langue allemande, mais la décision de travailler avec Liselotte Pulver, de changer son image, qui était plutôt une image décervelée, et sur laquelle, malgré tout, qui passe à autre chose. Ici, c'est quelque chose de très, très intéressant. Il avait fait une première tentative avec une comédienne allemande implantée aux États-Unis qui avait été un échec total. Il avait abandonné le film. Voilà, donc tout ça, c'est ça. Et puis, il y a des choses qui sont dans tous les films de Sork. On sait qu'il y a une minutie totalement étrangère au style de studio d'Universal. Alors, dans des studios riches, ça posait aucun problème, mais c'était pire encore parce qu'on savait que c'était automatique, il y avait des fleurs partout. Lui, dans les films d'Universal, vous ne verrez jamais de fleurs, sauf dans les films de Sork, il y en a toujours. Et je pense qu'il s'arrêtait chez le fleuriste avant d'arriver au studio. Enfin, c'est invraisemblable comme histoire. Il y a des fleurs, il y a des escaliers.
Et il y a les couleurs aussi.
Hein? Alors, il y a les couleurs. Hein? Et je me suis... Alors là, c'est Russell Metty. Mais,
donc, le chef opérateur.
Son grand chef opérateur avec qui il a fait 10 films. Et qui a vraiment innové, qui a fait toute une gamme des couleurs. Si vous voyez écrit sur du vent, c'est le film où c'est le plus net. Et Metty est très, très intéressant de ce point de vue-là. Bien qu'il ait fait certains de ses plus beaux films, comme La Ronde de l'Aube, en scope noir et blanc, avec un autre opérateur. Mais là, je me suis même demandé s'il n'y avait pas un jeu, quelque chose qui ne se fait pas chez les directeurs de la photo, c'est mélanger les chaleurs, la température des couleurs, c'est-à-dire... Zone froide, zone chaude, c'est quelque chose qui, en principe, est un interdit technique. Et je me demande si là, comme dans les autres films, vous verrez les filtres à travers l'éclairage par les fenêtres dans certains des mélodrames, je me demande si Metty n'a pas innové de ce côté-là. Mais là, il faudrait demander à des gens dont les connaissances techniques sont infiniment plus grandes que les miennes et peut-être aussi que les tiennes.
Je te l'envoie pas dire. Une dernière chose peut-être pour dire un mot du livre sous un seul angle. Je disais dans la présentation de jeudi que l'un des apports du livre, c'est le renouvellement par les sources. Et donc, pour juste que tu évoques ce renouvellement par les sources, est-ce que tu peux nous dire un mot de qui était, son nom m'échappe, attends, qui était Matthias Brunner et qui était
qui toujours,
et qui toujours Matthias Brunner et quid des agendas et d'Île de Jarry?
Alors, la source principale et pandémie aidant presque unique du livre, ça a été les archives de Douglas Sirk qui ont été déposées à la Cinémathèque suisse par Matthias Brunner, qui est un peintre, un artiste multimédia, qui était parmi les gens qui fréquentaient la maison des Sirk, qui recevait beaucoup... mais pas la grande société qui recevait beaucoup des jeunes gens, des gens, des admirateurs ou des gens avec qui ils pouvaient parler. Matthias Brunner allait beaucoup au cinéma avec eux, il les accompagnait, enfin il les buvait les paroles de Sirk, comme beaucoup d'autres qui ont raconté, bon, comme John Hallyday qui a fait le livre d'entretien avec lui, comme d'autres qui ont raconté leur rencontre. Et Tease donc est resté fidèle à ce souvenir et s'est occupé de mettre en ordre, d'ajouter sa collection particulière et de mettre en ordre tout ça pour la Cinémathèque suisse qui va procéder à un inventaire. Le paradoxe pour moi, c'est que ce sont des archives où il y a très peu de choses sur le cinéma. Elles sont principalement en allemand. Il y a de la correspondance, mais il y a très très peu de ce qui m'avait toujours servi, ce qui m'a énormément servi évidemment pour Fritz Lang, plus que tout autre. Ce sont les archives concernant le travail. Elles n'y sont pas là, parce qu'il a laissé ses archives américaines en quittant juste après Mirage de la vie. Donc ça c'est une première chose. Donc j'ai alors le théâtre, il y a beaucoup. Alors je pense que c'est un admirateur ou un acteur. Il y a énormément de coupures sur le théâtre, c'est extrêmement intéressant. Un acteur a fait une compilation sur son parcours à Leipzig, qui est la partie la plus brillante de son activité de théâtre. Donc là-dessus, il y a beaucoup de choses. Et sur le cinéma, il y a une page sur La Ronde de l'Aube. Il y a un rapport sur le scénario de La Ronde de l'Aube qui est interrompu. Il y a très très peu de choses. Il y a ces interviews après qui sont extrêmement précises sur ces conceptions du cinéma, qui ne sont pas toujours précises sur les faits, sur les dates, la nature des faits, etc. Donc c'est ça. Pour moi, le travail a dû se faire, c'est fait, avec ces archives dont j'ai beaucoup tiré et avec la vision des films. Il y en a quand même plus de 40. Quant aux agendas, ce sont des agendas entre agenda et journal intime de Hilde Sørk qu'elle a tenu à partir des années 30. En tout cas, ce qu'on a, c'est à partir des années 30. Ils sont en partie lisibles, en partie difficiles à lire, et c'est le très grand mérite de la production du réalisateur du documentaire sur Sørk que vous pourrez voir, je pense, dans une dizaine de jours, qui s'appelle Hope as in Despair, espoir comme dans désespoir. Donc le film de Roman Huben, et je pense qu'il y aura quelques projections autour du 22 au Reflet Médicis, qui est un très bon documentaire d'une heure et demie d'un jeune réalisateur suisse qui a beaucoup fouillé dans les... On a travaillé vraiment en parallèle et il a eu la bonne idée et il a eu le producteur assez généreux pour payer à des étudiants la transcription de ces agendas. Alors, les agendas, il y a souvent des choses qu'elle note souvent ses visites chez le coiffeur, où il y a souvent des remarques qui passeront pas vraiment à la postérité, du genre j'espère bien que Hitler va mourir. Mais il y a également quand même des choses assez précises. J'ai retrouvé non seulement des renseignements, mais également des réflexions intéressantes et sur le caractère très très fusionnel du couple. Et sur, malgré tout, des différences. Parce que contrairement à ce que Sørk a dit, elle n'a pas vraiment travaillé avec lui à Hollywood. Elle parlait l'anglais mieux que lui. Elle a travaillé sur les premiers films. Et ensuite, elle allait au studio. Je pense qu'il travaillait avec elle le soir. Mais elle était très, très peu sur les plateaux. Donc, ce sont des carnets très, très intéressants. À la fois très intéressant et pas d'une grande valeur. Enfin, ce sont des choses, il y a un moment où on se dit forcément, oui, mais il faudrait publier ça.
Ce n'est pas publiable, mais c'est une vraie source.
Ça a été une vraie source, une des dernières, puisque la transcription est arrivée quand j'étais déjà à moitié. Mais ça a été évidemment passionnant. Et donc le film est très intéressant grâce à ça et pas seulement.
Le Rossellini est antérieur à celui-là, Allemagne.
Ah oui.
Allemagne année zéro, c'est 47, c'est 10 ans plus tôt.
Oui, Allemagne année zéro, 10 ans plus tôt, oui. Absolument. On va s'arrêter là, en tout cas sous cette forme.
Merci.
Merci beaucoup, Bernard. Merci. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.